Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mercredi 21 janvier 2026, il est 6 heures avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'info locale de Syllab. Bon, on l'a tous et toutes remarqué en ce moment, la situation géopolitique mondiale est légèrement tendue. Guerre en Ukraine, génocide à Gaza, massacre en Iran, Trump en roue libre qui veut annexer le Groenland et imposer un nouvel ordre mondial impérialiste. On en parlera dans le flash d'Estelle. Tout ça, c'est un tout petit peu anxiogène. On est à la limite de se constituer un petit sac d'urgence en cas de troisième guerre mondiale. Donc je vous propose de rire un peu de cette situation angoissante grâce au compte X et Insta French Response. Vous en avez entendu parler ou pas ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout.
Super, je vous explique. C'est un compte pas du tout sérieux sur les réseaux sociaux tenus de façon officielle par des agents et agentes du ministère des Affaires étrangères. Depuis quelques mois, ils et elles ont décidé de troller les trolls de la France pour mieux les décrédibiliser. Ça donne par exemple cette punchline contre Elon Musk. Dans un post le 10 janvier dernier, il demande, je cite, « Pourquoi le gouvernement britannique est-il si fasciste ?» Réponse de French Response, une simple photo sans commentaire, celle où on voit le multimilliardaire lever le bras dans ce qui se ressemble beaucoup à un salut nazi. Simple, efficace. Autre exemple, sur une image de propagande relayée par un compte pro-russe, on voit un soldat russe brandir un marteau contre le diable qui supplie à terre et qui est vêtu de drapeaux ukrainiens et européens. La légende, c'est « Rejoins la Russie dans son combat contre le satanisme ». Tellement c'est ouf, j'arrive plus à me relire. French Response republie en se moquant « Quand on n'a plus d'arguments, on convoque les démons ». Référence à la pop culture, mème et cynisme pour contrer les tentatives d'ingérence étrangère et la désinformation. Ça peut marcher et en tout cas, c'est drôle, ça nous change un peu de l'actu. Et l'actu du jour, elle est costosaure, on voit ça dans le flash d'Estelle.
Après des problèmes techniques sur son avion, Donald Trump a bien atterri en début d'après-midi à Davos. D'entrée de jeu, le président américain a salué sa première année de second mandat. Mais il n'a pas manqué de critiquer une Europe devenue, selon lui, méconnaissable et qui ne va pas dans la bonne direction. Évoquant la guerre en Ukraine, Donald Trump a affirmé qu'elle n'aurait jamais eu lieu s'il était resté au pouvoir. Il a aussi répété qu'un accord de paix était relativement proche. Sur le plan économique, il a justifié ses menaces de droits de douane contre des pays mauvais envers les États-Unis, citant notamment la France. Et lors de son passage en Suisse, Donald Trump était aussi très attendu sur le dossier du Groenland, qu'il a confondu avec l'Islande. Tout ce que je demande, c'est un bout de glace. Aujourd'hui, lors du sommet de Davos, Donald Trump a réitéré ses avances. Si depuis 2019, il ne cesse de répéter son attirance pour la Terre verte, le président américain n'aura jamais été aussi loin. Problème ? Le Groenland appartient au Danemark, pays membre de l'OTAN, de l'ONU et de l'Union européenne. Après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, le 3 janvier, Donald Trump a assumé ses désirs d'expansionnisme. Réaction européenne, envoi des troupes françaises, emplacement stratégique, l'Afghan a sorti polaire et bottes pour mieux comprendre cette crise inédite du XXIe siècle.
Iran, Ukraine, Gaza et désormais Groenland. Pour trouver des accords sur ces sujets, les chefs d'État attendaient le Forum économique mondial. C'est à Davos, en Suisse, que les plus puissants et puissantes de ce monde se sont rejoints cette semaine pour un sommet marqué par les conflits mondiaux. Avec un discours extrêmement attendu depuis lundi, Donald Trump a pris la parole cet après-midi sur la scène du Forum économique. « Tout ce que je demande, c'est un bout de glace contre la paix mondiale », a-t-il lancé. Pas de quoi rassurer les pays européens déjà engagés contre une annexion américaine du Groenland. Quelques heures avant le discours de Donald Trump, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est exprimée devant le Parlement européen. Pour elle, l'Europe privilégie toujours le dialogue et les solutions, mais elle est tout à fait prête à agir si nécessaire sans tarder, de manière unie et en faisant preuve de détermination. En effet, l'Union européenne comme l'OTAN ont toujours défendu la souveraineté danoise, quitte à investir des moyens militaires. Depuis plusieurs jours, des pays comme la Suède, la Norvège, l'Allemagne, mais également la France ont initié l'envoi de troupes militaires sur les terres du Groenland. Cette initiative a mené les États-Unis à déclarer une guerre commerciale contre les pays européens qui soutiendraient le Danemark, augmentant considérablement les droits de douane vers Washington. L'Hexagone voit encore plus loin. Aujourd'hui, l'Elysée a annoncé que la France demandera prochainement un exercice de l'OTAN au Groenland, alors que l'administration Trump multiplie ses menaces. En parallèle, Emmanuel Macron a convié personnellement son homologue américain à une rencontre du G7 demain à Paris.
Pourtant, l'information n'est pas nouvelle. Donald Trump a, par le passé, fait plusieurs fois part de son besoin d'obtenir le territoire danois.
Et il ne s'en est jamais caché. Dès son premier mandat en août 2019, Donald Trump affirmait envisager un achat du Groenland, parlant d'une grosse transaction immobilière. À ce moment, aucune avancée particulière, mais lors de son second mandat, le président américain repart à la charge. Plus sérieusement, plusieurs fois, des membres de son administration se rendront sur le territoire danois dans l'objectif de démontrer leur volonté d'annexer celui-ci. Son fils, Trump Jr., avait aussi eu le droit à une visite officielle au Groenland, profitant de l'occasion pour diffuser de nombreux messages pro-Trump et MAGA sur place. Le 26 mars 2025, Donald Trump jette des ébauches d'hostilité. « Je n'aime pas le dire comme ça, mais il va falloir prendre possession du Groenland pour les États-Unis », disait-il chez le podcasteur Vince Coglianese. Dès lors, le monde et surtout l'Union européenne ont mesuré l'ampleur d'une potentielle attaque états-unienne sur le Groenland. Mais il y a quelques semaines, Donald Trump s'est lancé dans un hors-piste périlleux qui marquera peut-être l'histoire géopolitique du siècle. Le 4 janvier, après le bombardement et la mise sous tutelle du Venezuela par les États-Unis, le POTUS s'est exprimé aux journalistes à bord du Air Force One. Un grand sourire sur le visage, le président des États-Unis apparaît plus confiant et conquérant que jamais. « Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale », dit-il, ajoutant qu'il s'en occuperait sous 2 mois.
Mais pourquoi cette obsession pour le Groenland ?
C'est avant tout une vaste île à l'emplacement stratégique. Avec la fonte des calottes glaciaires sur l'hémisphère nord de notre planète, de nouvelles routes maritimes voient le jour, un moyen pour les États-Unis de se rapprocher un peu plus du territoire russe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Groenland était même utilisé comme base rapprochée des troupes américaines vers l'Europe. En 1946, déjà, les États-Unis avaient proposé un achat du Groenland pour 100 millions de dollars. En 2025, il s'agissait en fait de leur 6e proposition, toujours refusée par le Danemark. Au-delà de ça, les terres nordiques sont généralement riches en ressources et matériaux industriels, zinc, cuivre, uranium, hydrocarbures, tout ce que peuvent désirer de grandes puissances comme les États-Unis. Depuis quelques années, la Russie a pris les devants sur le minage et l'exploitation des eaux en terre arctique, un écosystème déjà fragilisé par le changement climatique. Si une guerre froide semble tout de même peu probable, les tensions entre les États-Unis et les pays d'Asie de l'Est sont, elles, plus glaciales que jamais.
Toujours à Davos, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a confié que l'Europe devrait encore pouvoir compter sur les États-Unis malgré les tensions nordiques. Un avis que le Danemark, qui a envoyé plus de 200 soldats au Groenland, ne semble pas partagé. D'autant plus que nous apprenions il y a quelques minutes l'envoi de consignes de sécurité en cas de guerre à la population groenlandaise. Parallèlement, Donald Trump prépare un conseil de la paix au sujet de l'avenir de Gaza, faisant des alliances internationales une actualité à suivre. Applaudissements, klaxons, cris de joie résonnent devant le Parlement européen. Victoire pour les agriculteurs et agricultrices français. Ce midi, les eurodéputés ont voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité de l'accord Mercosur. Le vote a été serré. 334 voix pour, 324 contre, 11 abstentions. Théoriquement, cette saisine bloque l'entrée en vigueur de l'accord pendant plusieurs mois, même si la Commission européenne peut l'appliquer provisoirement. La décision a été saluée par des centaines d'exploitants et exploitantes. Pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs, le Parlement se range de leur côté. Sur l'île de la Cité à Paris, la défense de Marine Le Pen se poursuit. À la barre depuis hier, la présidente du RN comparaît en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Ce matin, la présidente de la Cour d'appel, Michèle Hagi, a passé à la loupe la liste des assistants parlementaires. Cet après-midi, c'était au tour du ministère public d'interroger Marine Le Pen, suivie de la Défense. Leur but ? Tenter de démontrer qu'elle n'a pas instauré de système de recrutement d'assistants parlementaires. Appelée à se défendre pour la première fois hier, Marine Le Pen affirme n'avoir eu connaissance que de peu de choses et n'être donc nullement responsable. Mort imminente des zones à faible émission, la suppression du dispositif ZFE a été validée hier soir en commission mixte paritaire. Mais rien n'a encore définitivement acté. Deux derniers scrutins sont attendus le 27 janvier à l'Assemblée nationale et le 29 au Sénat. La fin de cette mesure est portée par la droite et l'extrême droite dans le cadre du projet de loi simplification destiné à alléger les démarches administratives des entreprises. Ce dispositif visait à restreindre l'accès des centres urbains aux véhicules les plus polluants en vue de limiter la pollution de l'air. Second appel à la grève au CHU de Rennes une semaine après le premier. L'intersyndicale appelle à une manifestation demain, 15h, place de la République. En cause, la saturation des urgences, malgré le dispositif d'urgence annoncé par l'Agence régionale de santé de Bretagne. Les syndicats réclament l'ouverture de 50 lits regroupés dans de vraies unités de soins, mais aussi des renforts humains. Deux postes d'infirmiers et infirmières, deux postes d'aides-soignants et aides-soignantes aux urgences et des assistants de régulation médicale. La députée LFI d'Ille-et-Vilaine, Marie Mesmer, a interpellé l'Assemblée nationale hier pour dénoncer la situation. Pour continuer sur des notes plus légères, direction l'Outre-Manche. L'esprit british s'installe du 24 au 31 janvier à Bruges pour la semaine du cinéma britannique. Organisée par le Grand Logis, cette 18e édition met en avant 12 films, dont 5 en compétition pour remporter le prix du public. Peu de place à l'humour, plus aux sujets sociétaux. L'événement ne se limite pas aux films, aura lieu aussi des dégustations de spécialités anglaises à l'heure du tea time, masterclass, rencontres et animations. Un journalisme d'immersion sur l'éducation, est-ce que ça vous intéresse ?
Oui, oui, oui.
C'est ce que nous propose le média Les Trois Ours, avec un spectacle d'information inédit sur la mixité à l'école. Nathalie Simon, journaliste et cofondateur des Trois Ours Médias, nous en dit un peu plus sur ses représentations au micro de l'AFKEN.
Les Trois Ours, c'est un média, mais c'est un média qui fait de l'information sur scène. Il y en a qui font de l'information à la télévision, il y en a qui font de l'information à la radio. Nous, on fait de l'information sur scène, ça veut dire qu'on fait monter des journalistes sur scène pour faire des spectacles d'information. Pour le prochain spectacle, on a fait monter une journaliste spécialisée en éducation et on va parler de mixité sociale à l'école, et notamment au collège, et parce qu'elle a fait tout un reportage pendant plus d'un an. Elle a fait un an d'immersion dans un collège à Nantes qui a ouvert l'année dernière et qui était la fusion de trois anciens collèges nantais. L'idée, c'était de fusionner un collège du centre-ville avec deux collèges plus périphériques de Nantes pour justement favoriser la mixité sociale. Anna Benjamin, elle est journaliste indépendante aujourd'hui. Elle a travaillé longtemps pour Le Point. Et là, elle travaille régulièrement pour l'émission de France Culture Les Pieds sur Terre. Donc c'est des reportages radio d'une vingtaine de minutes en immersif. Elle travaille également un peu pour Libé et Le Monde. Et là, elle vient aussi de réaliser, avec la revue dessinée, toujours sous le même thème, une enquête sur ce fameux collège de Nantes. De manière générale, la particularité de notre spectacle, c'est que c'est pas une conférence, c'est une journaliste sur scène, mais avec une mise en scène, avec des éclairages, des lumières travaillées, importantes. Et du coup, avec aussi l'idée que on n'est pas là que pour informer, on est aussi là pour passer des émotions quand même, c'est la première chose. Et la spécificité de ce spectacle-là en plus, c'est qu'on a travaillé autour de la bande dessinée, et notamment la question de comment on rendait visible sur scène la bande dessinée. Donc on a 5 écrans sur scène qui permettent de refaire vivre l'idée de bulle, l'idée de projection variée pour qu'effectivement la BD qui a été réalisée sur ce sujet vive, s'incarne dans le spectacle. On a une écriture un peu, nos spectacles sont un peu écrits comme des podcasts, c'est-à-dire que c'est un récit narratif et immersif, un peu comme le font les podcasts aujourd'hui. Okay. Donc là, effectivement, on va avoir un extrait sonore qui viendront illustrer le spectacle.
Merci Nathalie Simon et l'AFKEN. Si le sujet de la mixité sociale au collège vous intéresse, alors filez réserver vos places. L'événement a lieu à La Paillette le jeudi 22 janvier de 19h à 20h30 et le vendredi 23 janvier pour deux prestations, une à 10h et l'autre à 19h. Et pour les Brestois, il est possible de prendre sa place le jeudi 29 janvier lors du festival Longueur d'onde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.3ours.fr.
Merci Estelle, à la prochaine.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Une interview signée Romane ce soir.
Et on se retrouve ce soir pour parler du dispositif Le Voyage en Ukraine, une saison composée de nombreux événements culturels organisés entre la France et l'Ukraine. Et pour en parler, on reçoit Romain Huette, habillé d'un sweat noir et d'un pantalon beige. Il est maître de conférences en sciences de la communication à l'Université Rennes 2, cofondateur du podcast Craquer l'époque et l'auteur de l'ouvrage La guerre en tête sur les fronts de la Syrie à l'Ukraine. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous serez également accompagné pendant cette interview par Natalia Gouzenko-Boudier, qui est directrice de l'Institut ukrainien en France. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir en studio, mais nous avons pu l'avoir au téléphone. Et elle a commencé par nous présenter concrètement ce que c'est que le voyage en Ukraine.
C'est une saison de l'Ukraine en France, organisée par l'Institut français et l'Institut ukrainien, avec sous le tutelle de deux ministères des Affaires étrangères et le ministère de la Culture français, et avec en collaboration avec les ambassades de deux pays. Cette saison est là et pour parler de tout ce qui est important pour le peuple ukrainien, et expliquer en fait d'où vient notre résistance, qui est basée bien sûr sur notre identité et notre culture.
Romain, en tant que chercheur, notamment sur des questions d'interculturalité, qu'est-ce que ça vous fait penser, ça vous évoque quoi ce dispositif ?
Moi je trouve que c'est extrêmement intéressant de toute façon de se rapprocher de peuples qu'on connaît bien souvent assez peu en réalité, et on voit bien qu'il y a une attention publique extrêmement forte autour de l'Ukraine, mais qu'est-ce que l'on connaît véritablement de la société ukrainienne au-delà des faits historiques, au-delà de la situation géopolitique. Et moi j'ai l'impression que rentrer un petit peu dans l'humeur d'un peuple, et notamment dans sa capacité de résistance, et comprendre d'où elle provient, et quelles sont ses origines, et notamment d'ailleurs je pense l'origine aussi culturelle de cette résistance. Moi, je trouve que c'est intéressant. On a besoin d'attachement, me semble-t-il, notamment quand on cherche à défendre un peuple. Eh bien, il faut savoir aussi à quoi on tient. Et ça ne peut pas être une idée purement abstraite, un peuple. Je crois qu'on cherche à le décrypter, à le comprendre le mieux possible pour communiquer avec lui.
Le voyage en Ukraine est accompagné d'un slogan, la culture contre-attaque. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors c'est beau aussi la culture contre-attaque, et je pense qu'on en a évidemment pas assez, parce que c'est une façon évidemment de mettre en sens, et puis peut-être aussi de domestiquer toute notre capacité à être dans l'horreur politique. Là vous avez introduit le journal avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Effectivement, là on a l'impression que les choses déraillent complètement, et la culture, je crois qu'elle est là aussi pour peut-être, là encore une fois, nous rappeler ce à quoi l'on tient, et puis nous aider à mettre sens au monde. Et on en a plus que jamais besoin. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un comme Trump paraît facilement idiot quand il a devant lui quelqu'un qui est capable de faire une vraie narration sur le monde. Et donc, pour moi, évidemment, cet attachement-là, il est extrêmement fort. Et surtout sur la dimension culturelle, moi, je pense que on ne connaissait pas grand-chose, en fait, de la culture ukrainienne, me semble-t-il. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir comment les artistes racontent, en fait, leur origine, racontent leur pays. Moi, je me souviens, dans un de mes premiers voyages en Ukraine en 2022, donc c'était un mois après le début de la guerre, j'ai traîné avec un artiste, c'était un graffeur, et maintenant, il est devenu militaire, et il montrait tous ces graphes qu'il faisait dans les rues, et sa façon de mettre en scène. Et encore aujourd'hui, sur Instagram, il continue à faire à combattre... et le reste du temps à continuer à avoir une pratique artistique. Je crois que les pratiques artistiques, en tout cas la culture, c'est ce qui protège vraiment la barbarie.
Donc comment, selon vous, la culture peut incarner la résistance et l'identité comme l'évoque Natalia ?
Je pense que elle invoque la résistance parce que la culture, elle parle, elle est en train de raconter aussi comment est vécue intimement une agression sur ces terres, comment est vécue intimement la violence, comment est vécue intimement toutes ces familles qui sont disloquées, toutes ces familles qui sont en train d'enterrer les leurs. Donc moi je pense que la culture, elle façonne la résistance parce que elle continue à montrer aussi qu'est-ce qu'il nous faut effectivement défendre, mais sans tomber dans une espèce de folie meurtrière. meurtrières qui menacent évidemment tous les conflits longs. Alors bon, j'en ai pas mal d'exemples puisque j'ai voyagé en Ukraine, mais dans d'autres pays aussi, où j'ai pu voir que justement, quand les artistes partaient, c'est là où justement ça rendait possible le mal politique. C'est là en fait où ça peut déborder dans tous les côtés. Et c'est là où finalement on perd quelque chose qui est quand même extrêmement important. Et je crois que même quand on fait la guerre, c'est ce qu'on appelle assez bêtement l'empathie, quoi. C'est-à-dire la capacité à prendre le point de vue de l'autre, y compris de votre ennemi, quoi. Et je ne suis pas en train d'être dans quelque chose de très naïf en disant qu'il s'agit simplement de créer l'amitié entre les peuples, mais... il s'agit quand même de créer les conditions, à un moment donné ou à un autre, eh bien de se réconcilier avec sa propre histoire et aussi, bien sûr, avec une histoire qui est agressée, sur le coup.
Le voyage en Ukraine, c'est donc des thématiques fortes exprimées à travers l'art. Natalia nous apprend qu'au total, une cinquantaine d'événements sont organisés partout en France.
Pendant la saison de l'Ukraine en France, on a plusieurs thématiques qui sont liées à tous les champs culturels, donc la danse, la littérature, la musique, le cinéma, mais également il y a beaucoup d'événements consacrés aux autres questions liées plutôt à la société civile, notamment on parle de la santé et la santé mentale. Également, on aborde des questions des médias et des informations. Il y a des rencontres avec les représentants de la société civile qui parlent ce que ça veut dire, en fait, grandir et vivre en Ukraine aujourd'hui en temps de guerre.
Des événements organisés à Paris, Lille, Marseille, Toulouse, Nantes, mais aussi à Rennes. Comment ces événements font-ils sens localement, selon vous, Romain ?
Là encore, je pense que ce qui est intéressant, c'est de découvrir justement une société qui est en train de nous parler. Et moi, je trouve ça très, très fascinant, comment les Ukrainiens réfléchissent pendant le cours de la guerre, ce qu'ils sont en train de faire. Et là, par exemple, on prend l'exemple de la santé mentale. Mais c'est des initiatives qui sont super importantes. C'est-à-dire déjà de commencer à comprendre comment on peut accompagner des personnes qui ont vécu les traumatismes de la guerre pendant autant d'années. Et ça, je crois que c'est pas simplement, vous voyez... je crois qu'on n'est pas simplement dans une perspective d'essayer de créer un attachement avec l'Ukraine. C'est aussi qu'est-ce que l'Ukraine nous apprend. Et en termes d'autonomie politique, ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils sont capables de fabriquer, y compris dans le cours de la guerre, de continuer à avoir des activités dans lesquelles ils racontent en fait ce qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est quand même assez fascinant. Alors, c'est une anecdote moi, qui m'avait toujours marqué aussi. C'était, je crois, dans mon premier voyage, c'était au moment de la chute de Mariupol. Et il y avait des citoyens qui, d'eux-mêmes, ont décidé d'aller dans leur musée, de prendre les œuvres, de les empaqueter, de les mettre dans leur coffre de voiture et de partir avec pour les protéger. Vous imaginez l'histoire ? Imaginez au checkpoint, vous vous dites quoi avec tous vos objets que vous avez dans le coffre ? En fait, ils ont une culture, parce que l'État aussi est défaillant, ils ont une culture quand même de l'autonomie politique qui est très très forte. Et là, je crois qu'ils le montrent encore, parce qu'ils continuent à communiquer dans des temps qui sont quand même extrêmement compliqués, qui tendent la guerre.
Il y aura trois événements à Rennes que Natalia nous présente.
Les rendez-vous prévus dans le cadre de la saison, donc consacrés déjà à la littérature, au cinéma et à la danse. Donc en mois de février, le 6 février, au Champ Libre, le public rennais peut retrouver André Kourkov et Ras Kashian, donc deux écrivains ukrainiens. Et après, dans le cadre du festival Traveling, qui a lieu au mois de février, il y a un focus sur le cinéma ukrainien avec plusieurs réalisateurs invités. Et donc, le troisième événement, c'est chorégraphique. C'est un projet Vorn, Corps en tête, Corps en lutte, de la chorégraphe Olga Dukovna, qui aura lieu au mois de mars.
Est-ce que le partenariat entre le festival Travelling et le voyage en Ukraine montre justement que le cinéma est aujourd'hui un moyen de raconter la guerre autrement que par l'actualité immédiate ?
J'espère que le cinéma a cette puissance de raconter le monde au-delà effectivement de l'actualité immédiate. Mais je crois qu'en fait, un des enjeux qui est quand même hyper important, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien que on l'a introduit un peu comme ça, j'ai l'impression, cette émission, qu'on voit bien que nos subjectivités sont complètement assaillies par toutes les nouvelles qui arrivent dans le monde. Et donc, il y a une dispersion très claire, en fait, de nos centres d'attention et qui fait que, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est notre capacité à accueillir psychiquement l'ensemble de ces grandes énormes drames qui existent, mais en tout cas, il y a un enjeu absolument important, me semble-t-il, c'est de maintenir, en fait, de consister avec nos attachements, c'est-à-dire de continuer à ne pas oublier ces peuples qui sont en train de faire l'expérience de la guerre. Évidemment, là encore une fois, hein, sans qu'il n'ait été à l'origine d'ailleurs de cette décision. Donc moi, je pense que ça, c'est très important. Et ce genre de manifestation, et ce genre de manifestation dans lequel, en plus, on va raconter une société que l'on connaît finalement, moi, je pense pas si bien que cela. Moi, je trouve c'est génial de pouvoir découvrir le cinéma ukrainien. Tiens, et qu'est-ce qu'il a de particulier? Comment ce cinéma-là peut aussi peut-être nous inspirer, ou en tout cas manifester à nos esprits l'Ukraine un peu autrement comme on la connaît.
Est-ce que pour vous, c'est une manière pour les cinéastes ukrainiens et ukrainiennes de continuer à créer, à imaginer un avenir malgré la guerre ?
Ouais, c'est sans doute cela, parce que ce matin, je discutais justement avec un combattant en Ukraine, et je lui dis, bon, évidemment, la question qu'il ne faut surtout pas poser, hein, mais comment tu vas ? Et je vous dis ces mots, hein, je les ai recopiés ici, hein, il me dit, j'ai encore la force, j'ai encore la force pour combattre, mais quand je regarde les nouvelles du monde, eh ben, ça me tombe un peu des bras. Le monde devient complètement fou. Et donc, quand il dit quelque chose comme ça, bah, pour moi, ça montre aussi que, à la fois, il y a quelque chose de l'ordre d'une persistance à continuer à défendre ce à quoi on tient. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, de l'autre aussi, bah, montrer que cette force, elle a toujours besoin des autres. Elle a toujours besoin de ses soutiens. Et quand je dis ses soutiens, c'est pas jouer le truc viriliste, les soutiens militaires, etc. C'est des soutiens aussi d'amitié entre des peuples, ou en tout cas d'accueil entre les peuples, quelles que soient les questions de géopolitique qui, moi, sur le coup, ne m'intéressent pas vraiment. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est comment on accorde à la fois notre attention et puis, bien sûr, notre soutien à des vies auxquelles, en fait, on est tous un peu interdépendants, je le crois. Donc.
Je reviens à l'échelle locale. Il y a une exposition en ce moment à la Bibliothèque universitaire de Rennes 2, commencée le 12 janvier dernier. C'est un événement organisé dans le cadre du voyage en Ukraine, c'est bien ça ?
Je ne sais pas, mais je viens de la voir et je la trouve formidable. Elle est très intéressante, cette exposition, parce que sur le coup, ce sont des Russes qui sont photographiés. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être photographié pendant la dictature ? Donc, on les voit tous avec leurs mains, où ils se protègent le visage. C'est très intéressant de regarder aussi comment eux, ils racontent leur réaction face au début de la guerre. Parce que je rappelle quand même qu'au tout début de la guerre, on attendait beaucoup les réactions des Russes en disant, est-ce qu'ils vont se rebeller contre leur pays, contre Poutine, etc. Bon, il y a eu quelques mouvements vite, une répression qui était assez forte, mais de façon générale, la société russe ne s'est pas tellement insurgée contre la décision de mener la guerre. Et là, c'est super intéressant d'écouter ce que, parce qu'il y a beaucoup d'écrits aussi, hein, donc ce que ces personnes ordinaires sont en train de raconter. C'est ça aussi, moi, je crois, la culture, hein, c'est pas juste une espèce de grande bataille où on va invisibiliser une culture pour visibiliser une autre, c'est la faire dialoguer. Et là, moi, c'est rare, je crois, quand on entend justement des Russes pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Et ils sont rarement, évidemment, dans les témoignages que nous avons ici, ce ne sont pas des va-t-en-guerre. Hein.
L'exposition s'appelle Unisho Diplomas, qui veut dire diplôme non remis. C'est assez symbolique. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'ils disent de la jeunesse ukrainienne et de ce que la guerre leur a volé ?
Bah, on est à Rennes 2 ici, mais je me souviens d'un étudiant qui était en infocom, un étudiant de Rennes 2 qui m'écrit, j'étais en Ukraine, et il me dit, bah, tiens, je suis en train de rejoindre Kiev parce qu'il a décidé d'arrêter ses études et de combattre. Vous savez ce qu'il me demandait ? Il me demandait s'il pouvait me rendre son dossier un peu plus tard. Ben voilà, toutes ces jeunesses, toutes ces trajectoires qui ont été complètement rattrapées par le monde. Oui, je pense que c'est à la fois des trajectoires qui sont brisées, qui ont été brisées, concrètement brisées. Et c'est surtout un moment où le monde vous rattrape. Et je crois que ça, c'est quelque chose dans des contextes en paix auxquels on ne s'attend pas. Et l'Ukraine, les Ukrainiens ne s'y attendaient pas du tout. Même avant 2014, ils n'avaient pas du tout l'expérience de la guerre. Donc ça surgit extrêmement rapidement et ça a complètement bouleversé les trajectoires.
Et j'ai une dernière question pour terminer. Quel message vous donneriez aux auditeurs et auditrices pour leur donner envie d'aller voir cette exposition ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas faire semblant que le monde n'existe pas. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de chance si on continue à nous parler, y compris depuis des endroits sombres du monde. Et que, bien sûr, qu'évidemment, il faut qu'on puisse rencontrer ces personnes qui sont, je pense, au centre de l'histoire aujourd'hui, d'une histoire qui nous concerne toutes et tous, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Romain Huette pour votre présence.
Merci à vous.
L'exposition Unishoot Diplomas est à découvrir à l'Université de Rennes 2, à la bibliothèque universitaire jusqu'au 2 mars. Le dispositif Voyage en Ukraine, lui, se déploie partout en France jusqu'au 22 mars 2026, avec de nombreux rendez-vous, notamment à Rennes. Toute la programmation est à retrouver sur les sites de l'Institut français, de l'Institut ukrainien et du Festival Travelling.
6 heures avant minuit.
Aujourd'hui, dans la chronique « Quand les femmes faisaient l'histoire », Milia nous parle de Marguerite Poulain, une femme qui, au XVIe siècle, a dirigé le commerce nantais. Dans un monde d'hommes, elle a pris le pouvoir sans même demander la permission.
Aujourd'hui, dans « Quand les femmes faisaient l'histoire », on va parler d'une femme qu'on n'imaginait surtout pas aux commandes. Pas dans un foyer, pas dans un salon littéraire, mais au cœur du commerce, du pouvoir et de l'argent. Son nom, Marguerite Poulain. Son époque, le XVIe siècle. Autant dire que c'est un moment où une femme devait gérer la maison. On se retrouve à Nantes vers 1550. Un port stratégique, des bateaux, des fortunes qui circulent, un monde d'hommes, de contrats, de comptoirs et Marguerite. Elle naît en 1537 dans une famille qui pèse lourd. Son père est marchand, son frère deviendra maire de Nantes, ses sœurs épousent les plus gros noms du commerce local. Bref, le pouvoir, elle ne le découvre pas, elle naît dedans. En 1557, elle épouse Pierre d'Épinoz. Marchand influent, famille d'origine espagnole, une alliance parfaite entre grandes dynasties économiques. Ils ont 6 enfants, une vie bien rangée en apparence. Et puis en 1566, tout bascule. Pierre meurt, Marguerite est veuve. À l'époque, être veuve, ça signifie se retirer, laisser faire, transmettre à un homme. Sauf que Marguerite, elle ne transmet rien, elle reprend tout. Elle prend la tête de l'entreprise commerciale de son mari, elle négocie, elle investit, elle dirige, et non seulement elle survit, elle prospère. Les sources sont claires. Elle augmente une fortune déjà colossale, on la considère comme la plus grande marchande de Nantes au XVIe siècle. Oui, une femme. Dans un monde où les femmes ne signent pas les contrats, elle les scelle désormais. Marguerite entre même dans la contractation, la société qui contrôle tout le commerce nantais, une institution ultra puissante, ultra masculine. Et là, elle ne se contente pas d'y siéger. Entre 1603 et 1605, elle semble en être le chef. Unique cas connu, la seule femme de toute l'histoire de la contractation. Pas une exception symbolique, une vraie patronne. Elle dirige des hommes, des fortunes, une ville qui commerce avec l'Europe entière. Sans discours, sans manifeste, juste avec des faits. Quand elle se retire, ce n'est pas parce qu'on l'écarte, c'est parce qu'elle a plus de 65 ans. Elle fait le choix d'arrêter. Marguerite meurt en 1613 à Nantes, sa fortune est partagée en 1618. Et comme souvent, son nom disparaît. Pas parce qu'elle n'a rien fait, mais parce qu'elle faisait trop bien ce que l'histoire réservait aux hommes. Marguerite Poulain, c'est la preuve que le capitalisme marchand n'a pas toujours été uniquement masculin, qu'une femme pouvait gouverner sans tribune, sans slogan, simplement en tenant les rênes. Elle n'a pas changé les lois, elle a changé les règles du jeu. Et si on l'a oublié, c'est peut-être parce qu'une femme qui réussit sans demander la permission, ça dérange encore 4 siècles plus tard. Alors aujourd'hui, sur Syllab, on remet son nom à la table, et cette fois, c'est elle qui mène la négociation.
Merci Milia, à la prochaine. Et nous, on va regarder ce qu'il y a sur le répondeur. Enfin, plutôt écouter ce qu'il y a sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Eh bien, il n'y a rien sur le répondeur. Laissez-nous un message vocal. Je vous rappelle le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Dites-nous ce que vous avez à nous dire et puis on diffuse ça à la fin de l'émission. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on organise un jeu concours pour la 7e édition du festival de danse rennais Waterproof. On vous offre une place pour 2 événements de la programmation. Il y a d'un côté le spectacle Tatiana de Julien Andujard, qui est une pièce dédiée à sa sœur disparue, à la fois fiction autobiographique, conte documentaire et numéro de cabaret. Ça se passe le 3 février à 20h au Triangle, cité de la danse rennaise. Et puis autre événement, haute salle, autre ambiance, vous pouvez aussi tenter de gagner une place pour la Let's Dance spécial Waterproof. Ça c'est le samedi 7 février à 23h à l'Ubu. Pour jouer, vous avez besoin d'un mot de passe. Est-ce que vous l'avez déjà retenu, le mot de passe ?
Si bémol machin.
Non, ça c'est fini.
Je pense que c'est Triangle.
Oui, bravo, Romain. Triangle, comme le nom de la cité de la danse rennaise qui organise le festival. Donc un jeu concours pour 2 événements. Si vous choisissez le bon mot de passe, l'attribution du spectacle gagné se fera par tirage au sort. Je vous souhaite bonne chance. Je te dis merci, Maud, pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Radio Campus Rennes 88.4.
J-18 avant les 30 ans de la radio Syllab.
C'est festif.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs des tours.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.